Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus comme chaque semaine, tous les dimanches de 18h à 19h. Nous allons vous parler d'actualités geek et ludiques. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois, il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Alors, on a eu un week-end chargé la semaine dernière, puisqu'on s'est rendu à la Forge. Enfin, chez les amis de la Forge Ludique pour le salon du Hammer Time. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont passé une bonne petite journée apparemment.
Et on s'est fait plaisir.
Vous avez eu l'occasion, on écoutera d'ailleurs tout à l'heure quelques interviews. On attend que Reynald règle son casque également. On avait reçu la semaine dernière, Dom, je te laisse.
Juste après le salon, l'équipe de TGCM qui nous présentait ses jeux Briscard et Carnage. Ils étaient venus dans le studio.
On remercie d'ailleurs Manu et Jérémy de nous avoir accompagnés pour cette émission. Et on a pu découvrir plein de jeux, et c'est vrai que ça faisait quand même plaisir de faire un événement, puisqu'en ce moment, c'est vrai que tous les regroupements, c'est jamais facile.
C'est le premier, et alors peut-être pas le dernier pour un moment, mais pourquoi pas, festival de jeux, salon, etc., rencontres ludiques.
Et c'est bien, puisque c'est leur deuxième édition, donc ils ont pu perdurer comme ça une année de plus, et je pense que l'année prochaine, on est déjà prêt à re-signer pour faire de la peinture de figurines, du jeu de plateau.
Oui, faire de belles découvertes aussi.
C'est ça. Alors, on parle de découvertes, est-ce que vous avez noté quelques jeux lors de ce week-end dernier qui vous ont marqué?
Alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup tester de jeux.
Ouais, tout pareil.
J'ai surtout regardé toutes les tables, puisqu'il y avait un concours de tables, comme l'année dernière, où des tables décorées, des tables de jeux, des décors, etc. J'ai fait le tour, j'ai discuté un petit peu avec tout le monde. C'était surtout l'occasion de revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Pas vus en vrai, en tout cas. On suit leurs avancées, leurs aventures sur Internet et compagnie. Mais les rencontrer en vrai, ça fait toujours plaisir. Donc c'était plus l'occasion de rencontrer des gens que jouer, j'avoue.
J'avoue, j'ai fait ma partie de retard d'un an de Arakam,
ou Arakan Wars.
Le jeu de cartes qui a bien évolué depuis l'année dernière, dont on avait reçu les auteurs.
C'est vrai. Et ouais. D'ailleurs, Dom, tu as fait une petite interview.
Absolument.
Des auteurs qu'on peut écouter directement.
Donc, Lies et Bob, qui étaient venus dans nos studios l'année dernière à l'issue du Hammer Time. Et donc là, j'ai repris connaissance et je leur ai demandé un petit peu des nouvelles de leur projet.
C'est Arakanoir. Ils étaient venus chez vous pour vous présenter à l'époque. On sortait de campagne Ulule pour le financement du livre audio qui entre-temps est devenu un audiofilm, c'est-à-dire un film audio immersif en trois dimensions, qui a donné naissance à une audiobox, le coffret physique de cette offre de livre audio. Et on était venu aussi dans le cadre du Hammer Time présenter Arakan Wars. Pour la première fois, en mai dernier c'était ?
Exactement.
C'était en mai dernier, ouais, ouais. C'est ce qui m'avait semblé, ouais. Et donc du coup, ben là, on représente Arakan Wars parce que l'heure du Kickstarter approche. Donc là, on est ligne droite vers le KS. Là, on est en train de tout préparer pour que ce soit nickel. On espérerait que ce soit lancé premier trimestre 2021. Donc là, on est en discussion avec les fabricants pour voir le prix de la boîte et tout ça. Création d'une communauté anglophone, parce que une statistique qui est très importante pour les jeunes Kickstarter, c'est que 50 à 75% des pledges d'un Kickstarter pour un jeu européen sont de la communauté anglophone. Hein, et beaucoup de ça, c'est les US. Donc du coup, malheureusement, on ne peut pas aller au Gen Con, on ne peut pas aller au UK Game Expo. Donc c'est quelque chose qui va se faire sur la toile, sur Internet. Mais ce qui ne nous empêche pas de faire des festivals en France et de revoir nos amis de Lille. Pour l'instant, pour nous retrouver, ça risque d'être exclusivement sur Internet. Donc c'est pas grave, parce qu'on a un print and play sur Internet qui est gratuit. On peut jouer à Arakan Wars sur Tabletopia, pour ceux qui connaissent. Donc on a déjà accès au jeu quand même. Et puis surtout, on va faire pas mal de petits concours sympas là, dans les moments qui vont venir pour gagner une box. Comme ça, on pourra y jouer chez soi ou gagner des decks. Donc moi, j'encourage les gens à nous suivre sur Facebook. Donc Arakan Wars, hein, tape ça dans le search. Sur le groupe et de vous tenir informé des nouvelles, parce que je pense qu'il va y avoir des trucs sympas à gagner, et puis surtout de se tenir informé sur quand le Kickstarter va sortir, et en plus pouvoir influer dessus, parce qu'on a fait des concours pour nommer les cas, carte et tout. Donc la communauté a son mot à dire sur ce qu'elle va avoir dans la première saison du Kickstarter d'Arcane Wars.
Tu parlais de communauté anglaise pour le jeu, mais est-ce qu'on peut parler aussi de communauté anglaise pour l'audiofilm ?
Bien sûr, ça suit le même cours. Nos produits ont sont voués à être liés les uns aux autres. Donc forcément, quand le jeu va vers le marché anglophone, l'arc narratif suit aussi, sachant que les stats qui valent pour le jeu valent aussi pour notre livre audio. Une grosse partie des consommateurs aujourd'hui qui font le marché du livre audio sont des consommateurs anglo-saxons, et plus précisément des consommateurs américains. On ne peut pas ne pas y être. On travaille dessus de la même manière qu'on travaille sur la version anglaise du jeu. Une dimension très importante de chez nous, c'est la musique. Donc on commence aussi à s'ouvrir aussi, à bosser avec des gens qui ont un ADN proche du nôtre. On vient de réaliser la BO d'un jeu mythique qui vient de sortir de Kickstarter, de Hell the Last Saga. Donc on est très content, c'est une belle expérience, et puis ça nous fait avancer dans la communauté comme on le veut. Merci beaucoup.
À la prochaine.
À très vite. Merci.
C'est vrai qu'on avait passé un bon moment avec Arakan.
J'ai changé de micro, ça va mieux. Non, mais je disais, comme j'ai testé la version de cette année, celle qui est en cours, celle qui est pré-Kickstarter, le jeu est vraiment équilibré, les decks sont différents les uns des autres et s'affrontent sans qu'il n'y ait un de plus fort que l'autre, malgré ce qu'on peut penser en regardant les cartes. Et oui, tiens, quelque chose de bon là.
Ce qui est surprenant, c'est que la partie dure 10 tours à peu près, ouais, mais presque jusqu'au dernier tour, les parties que j'ai vues, que j'ai faites, c'est jusqu'au dernier tour, pratiquement, c'est pas décidé.
Voilà, et normalement, le jeu est un jeu qui se fait en 10 tours, devrait être rapide. Et je dis normalement, parce que notre partie à nous a fait pratiquement 1h30, 2h, parce qu'on lâchait rien, on calculait tout, c'est à chaque
ça.
Carte.
C'est pas censé jouer comme ça, normalement.
Voilà, et parce que le fait de placer une carte sur le plateau de jeu, c'est la carte des points qui vont te rapporter en fin de partie, mais c'est aussi une carte qui va pouvoir aller agresser les autres cartes ou faire un effet sur les autres cartes. Donc, c'est à toi de choisir entre aller perdre des points, entre guillemets, en envoyant tes cartes au combat, ou faire des effets, ou essayer de planquer tes cartes. Ouais. Donc, et t'as une dualité entre est-ce que c'est moi qui vais commencer à jouer, est-ce que c'est mon adversaire, donc quelle carte je vais placer, à quel moment. Il est vraiment bien équilibré, et j'ai hâte qu'il sorte.
Et une sortie qui semble venir prochainement.
Kickstarter début de l'année prochaine, normalement.
Ouais.
Wow. On va suivre, on va tenir au courant.
Sachant que le jeu n'est pas le support principal, hein. Le support principal, c'est bien les audiofilms.
Exactement. C'est l'univers qu'ils ont créé, l'univers d'Arakan.
Voilà, qu'on vous invite à découvrir. Vous pouvez même réécouter la belle émission. Je pense que c'était l'épisode 6.
L'épisode 6, exactement.
J'avais vu avec eux, justement, donc l'évolution. Ils peuvent avoir quelques cartes en plus qui vont avoir des différences en fonction de l'évolution du film. Mais aussi, en allant sur leur site, on peut avoir normalement un print and play du jeu de cartes pour le tester et voir s'il nous intéresse pour backer.
Arakan Wars, vous cherchez, ça sera très facile à trouver.
On enchaîne. C'est pas la seule interview que Absolument. Tu as pu faire lors de ce salon.
C'est pas la seule personne de nos rencontres habituelles qu'on a rencontré. Parce que justement, ils parlaient qu'ils ont fait la musique pour un jeu qui s'appelle Hell Saga, qui est en Kickstarter et qui doit sortir, le Kickstarter doit sortir. Je ne sais plus, il y a tellement de Kickstarter, je n'arrive plus à suivre. Et qui est-ce qui suit cette aventure? Eh ben, c'est les gens de chez Mythic Games. Et quand on parle de Mythic Games chez nous, on connaît notamment Mike, qui organise le Duggy, qui est ambassadeur Mythic Games. Et ben, je l'ai retrouvé et puis je l'ai interviewé. Et une bonne nouvelle à nous annoncer.
Alors, bonjour à tous. Alors, comme je vais expliquer un petit peu, cette année est une année un peu particulière pour tout le monde, pour un peu tous les organisateurs de festivals et d'événements. Après mûre réflexion, on s'est vraiment positionné sur le fait de maintenir ou non le festival du Digeek. Et la réponse est qu'on va faire un événement, toujours sur la date du 14 et 15 novembre, mais qui ne sera pas le Ludigeek Festival comme on peut le connaître. On va passer sur une participation avec invitation, où on va générer 200 invitations pour contrôler et gérer le flux du public et de pouvoir le maîtriser par rapport aux gestes barrières et toutes les normes sanitaires qui nous sont imposées. Pourquoi ? Pour éviter la frustration d'avoir un événement qui se dit public, mais de devoir refuser des gens à l'entrée et de faire en sorte d'avoir des gens qui sont un peu malheureux d'avoir fait de la route ou de s'être déplacé, de leur dire bah écoutez, on peut pas vous laisser rentrer, on est complet, ou veuillez patienter. On veut pas ça. On veut garder la bonne humeur et garder un peu l'essence même du festival, de garder cet esprit collectif, de cet ensemble familial, et de dire voilà, on aura des invitations. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Bon, ça c'est un peu comme un concert de musique. Mais on fera en sorte de pouvoir inviter le maximum de personnes et de se préparer pour une meilleure édition sur 2021. Voilà.
Que pourront voir les chanceux qui auront leur place?
Alors, l'événement tournera un peu autour de ce qu'on a créé, qui est le label du Digeek. Notre label qui consiste à mettre en valeur toutes les partenaires avec qui on travaille au long de l'année sur des événements. Alors, on en a cité quelques-uns. Je pense à Légion Distribution, je pense à Mythic Games, je pense à Ravensburger, Bombix, Yellow. Enfin, ils sont pléhortes. On a plus de 25 partenaires signés sur le label, mais aussi des boutiques, des magasins. Pour nous, c'est le moment peut-être de mettre l'accent sur ces partenaires et de leur offrir un moment où on pourra présenter leur gamme de jeux, leur actualité, leurs dernières nouveautés. Pour certains partenaires, autour d'un moment, bon, certes privé, mais qui jouira quand même d'une, bah, je veux dire, d'une envie de vous montrer des choses, voilà, comme on essaie de faire chaque année. Que dire de plus ? Des exclus, oui. Notre partenaire Mythic Games viendra avec des exclus, des prototypes de leurs prochains jeux. Je sais déjà, sans trop spoiler, que le kit de Games nous enverra des actus qui sortiront sur novembre, qu'on pourra vous proposer. On a un partenariat avec Ravensburger où on organisera un petit événement. On est en train de réfléchir à peut-être un premier tournoi du jeu Super Fantasy Brawl de Mythic Games aussi. Et après, d'autres petites surprises qui vont arriver un petit peu à la fois. Voilà, la programmation est en cours d'écriture pour l'instant.
Super Fantasy Brawl qui est justement en démonstration ici au Hammer Time. Donc, tu es présent pour Mythic Games. On peut aussi tester Solomon Kane. Est-ce qu'il y a d'autres actualités éventuellement autour de Mythic?
Alors, on présente pas que ça. Ce week-end, on est aussi là. On est aussi là, nous, en étiquette Mythic Games. Mais on représente aussi Légion Distribution en présentant Sky Tears. Et en présentant aussi les Dents de la Mer pour Ravensburger aussi, qui sont nos partenaires. Et en fait, on représente leur jeu aussi ce week-end. Les actus. Alors, les actus chez Mythic, la livraison prochaine de Super Fantasy Brawl, qui devrait commencer d'ici à fin septembre. S'en suivra Enchanters, qui devra arriver aussi. D'ici fin d'année, on va arriver aussi sur les livraisons de Solomon Kane, Steam Watchers qui vont arriver. Un prochain Kickstarter qui va arriver aussi, dont on parle beaucoup sur le site de Mythic, qui est Darkest Dungeon, qui commence à attiser aussi pas mal la curiosité. Une belle licence de jeux vidéo portée sur un board game qui est juste diabolique.
Qui confirme de plus en plus la disparition tout douce des frontières entre le jeu vidéo, le monde du jeu de plateau, etc.
Il y a clairement une niche de gamers jeux vidéo que tout éditeur cherche maintenant un peu souvent à attirer un petit peu dans son panier, en ayant des licences porteuses avec des grosses licences. On l'a vu avec plein de jeux, Assassin's Creed, je vais prendre Resident Evil, Horizon, des choses comme ça, où on sait qu'il y a des gens qui vont être intéressés d'aller découvrir une version physique en board game d'un jeu vidéo qu'ils ont adoré. Donc oui, clairement, il y a un marché là-dessus et on est de plus en plus à l'exploiter aussi. En fait.
Merci beaucoup Mike, et puis on se revoit très bientôt pour la suite des événements.
Merci à Mike, qu'on avait reçu alors dans presque nos podcasts.
Deux fois, il est passé dans l'émission, mais il n'est pas encore venu dans le studio.
Un jour, l'invitation est toujours ouverte.
Alors, il parlait effectivement, on parlait vite fait de l'adaptation des jeux vidéo aux jeux de plateau et vice versa. On parlera tout à l'heure de l'adaptation, oui, d'un jeu de plateau qui était d'une BD et qui était à l'origine un podcast. On en parlera en jeu vidéo, le Donjon de Hellbuck. Mais on parlait par interview des Dents de la Mer, qui est chez Ravensburger, qui était en démonstration au salon. Et qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est ça en 2020. Et c'est vraiment un jeu sympa, c'est Les Dents de la Mer, basé sur puisque c'est l'anniversaire, ça va être le 45e, 50e anniversaire. Je crois que c'est le 45e anniversaire du film Les Dents de la Mer. Et on rappelle que ce week-end, bon, c'est à Paris, il y avait le Paris Shark Fest, dont on a parlé dans la dernière émission. Magnifique. Vous projetez à Paris, c'était au Paris, à Paris des documentaires sur les requins, mais aussi Les Dents de la Mer, le premier, l'original, mais aussi quelques films de chaque exploitation, hein, de style Sharknado, Sharktopus et compagnie.
Quelques nanars bien.
De bons petits nanars.
À regarder.
Ce ne sont pas des documentaires sur le requin, non, non.
Mais c'est fou le nombre de comme vous appelez, de nanars qu'ils ont pu faire avec les sharks.
C'est pas fini. C'est pas fini.
Non, mais là, des vrais nanars.
Et donc, cette adaptation du jeu de plateau Les Jeux de la Mer, Jaws, chez Ravensburger, c'est un jeu semi-coopératif, puisqu'il y a un joueur qui incarne, il n'est pas déguisé en requin, hein, il contrôle le requin autour de la ville, c'est Amity, si je ne dis pas de bêtises, et les trois adversaires, les trois autres joueurs, jouent donc Quinn, Brody et Hooper, les trois personnages, on va dire les gentils, qui ont pour but dans la première partie de détecter le requin, de savoir à quel endroit il est, pendant que le requin est en train de boulotter quelques nageurs et nageuses, etc. Et quand ils ont enfin réussi à le repérer, on retourne le plateau de jeu,
Et on passe à la deuxième partie du jeu, comme dans le film, où on est, cette fois, Brody, Quinn et Hooper sont sur le bateau, et le requin tourne autour, et il grignote petit à petit le bateau, et ils doivent essayer de survivre jusqu'à la fin. Donc c'est un jeu vraiment typique, et les parties que j'ai pas pu le tester, mais les parties que j'ai vues représentent vraiment l'atmosphère du film. Donc le jeu est sorti, c'est chez Ravensburger.
Et comme on pouvait l'entendre avec Mike, il y a de plus en plus de licences qui sont adaptées maintenant en board game, donc en jeu de plateau. On voit que ça fonctionne, ça, hein, cette franchise.
Ça marche parce que les joueurs de jeux vidéo sont aussi aussi le jeu de plateau souvent. Donc le fait d'avoir ton jeu en dur, enfin en vrai, d'avoir le jeu lui-même, etc. Ben, les auteurs d'ailleurs, ça marche dans plein de domaines, parce que les auteurs du jeu Jaws dont je viens de parler, c'est Prospero Hall, ça c'est un collectif d'auteurs américains, si je ne dis pas de bêtises. C'est eux qui avaient créé l'année dernière, en 2018, Villain House, qui est un jeu de plateau adapté, où tu joues
les méchants
des films de Disney.
Disney, ouais.
Donc la sorcière, etc., la reine de cœur, si je ne dis pas de bêtises, et tout ça.
Tu dois massacrer les sept nains et tout.
Oui, c'est bah, de genre là.
C'est une sorte de card building où tu fais, par exemple, pour un des méchants, c'est d'arriver à avoir dans sa main les trois cartes des objets qui le rendra le plus puissant par rapport à son film de Disney qui lui est propre.
Chacun des méchants a une façon particulière de jouer et de gagner.
Ouais, et ce qui fait que toi, tu dois construire ton jeu de cartes en fonction de ça, mais aussi aller plus vite que les autres joueurs, leur mettant des crasses, mais ça reste en plus un jeu sérieux, c'est pas un jeu pour enfants.
Non, on a l'impression
mais c'est dans l'univers de Disney, donc enfants, t'as l'impression que c'est pour enfants. Mais non.
Il y a déjà une extension, il y a une deuxième extension qui est prévue.
Tu parles donc au niveau de la complexité du jeu.
Ouais,
généralement, en deck building, c'est vrai que t'es déjà sur une...
Tu peux avoir des mécaniques simples, mais oui, finalement, là, t'as l'impression que tu vas jouer des... Mais non, c'est même pas un jeu gentil, tu fais des crasses aux autres, quoi, c'est...
Or, vous, si on parle de franchise, quel est pour vous un des jeux de plateau où vous êtes dit je vais l'acheter, mais juste pour la franchise du nom?
Parce que t'es fan.
Alors que tu sais très bien que le gameplay risque de pas être terrible.
Non. Bah, si le gameplay est vraiment pour pourri, je peux pas acheter.
Si à choisir, parce que j'ai testé et ce qui m'a fait jouer à Doom, le jeu de plateau, la toute première édition, pareil pour Gears of War, qui était aussi une très bonne adaptation du jeu de plateau par rapport à la licence du jeu vidéo.
J'avais bien aimé, alors je n'ai même pas joué au jeu vidéo, tu vois.
Voilà. Et là, par contre, il n'y a pas longtemps qu'est sorti le Resident Evil 2, de mémoire, quand tu te passes dans le commissariat, je crois, ou c'est le 3, qui est sorti en jeu de plateau. J'avais aucune info dessus, j'ai vu la boîte, je fais...
Pour la beauté du jeu, oui.
Pour me rappeler de ce que j'avais fait et j'ai vécu, le stress que j'avais vécu à l'époque. Bon, maintenant, c'est un jeu qui date, quoi. Donc limite, quand j'étais gamin, pour quand j'y ai joué. Tu vois.
Moi, le jeu pour lequel j'ai craqué, c'est un jeu adapté de League of Legends. J'ai jamais joué, enfin, League of Legends, j'ai joué les 2-3 parties. Ouais, LOL, c'est ça. Ça existe encore. LOL. Le jeu lui-même, le jeu vidéo, je sens plus, j'avais pas joué ici, encore quand c'était gratuit, c'est tout. Mais c'est parce que la boîte Riot Games, qui avait édité le jeu, ils avaient des milliards à dépenser, ils se sont dit tiens, on va faire notre jeu de plateau. Ils ont engagé les meilleurs, ils ont mis un fric fou. Et le jeu lui-même, il était genre, la boîte coûtait 75 euros, mais rien que pour la boîte elle-même, la façon dont elle rangeait, les règles du jeu, etc., le jeu est vraiment excellent. Et donc ça valait le coup, quoi. Alors que je suis même pas fan du jeu, mais le design de la boîte du jeu lui-même valait largement le coup. Et on peut trouver ce jeu que chez l'éditeur. Il a été sorti en édition limitée, mais je crois qu'ils en ressortent de temps en temps.
Pas mal. Moi, j'aurais dit Doom, mais je ne l'ai même pas. Mais Doom, juste parce que la boîte était énorme.
Trop énorme.
C'était un mais des premiers jeux à licence avec plein de figurines et qui ressemblait un peu à une sorte d'HeroQuest, où tu avais un qui joue le grand méchant, qui joue les figurines du donjon, et les autres joueurs qui sont en coopératif et qui doivent... tout en poutrant les monstres avancer et aller finir le niveau.
Tu retrouvais bien l'esprit du jeu, ouais. Il fallait aller chercher la clé jaune pour ouvrir la porte jaune et avant de sortir, etc., voilà. En tirant partout, etc. C'était marrant.
Ils n'avaient pas à s'emmerder pour le scénario, en tout cas. Hein.
Quand tu meurs, tu réapparais, si je bats de voilà, dire, ouais. C'est tout.
Et par exemple, si celui qui joue le méchant faisait X frag, donc tuer X joueurs, il gagnait, alors que nous, on devait, par exemple, arriver dans cette salle-là et tuer tous les monstres dans cette salle. Mais tant que la porte est pas ouverte, tu sais pas les monstres qu'il y a dedans. Enfin,
il fallait quand même réfléchir.
Un petit peu.
Alors, vu qu'on parle d'un jeu avec des figurines qui est un peu coopératif, toi, Reynald, tu as vu lors du Hammer Time un jeu qui avait l'air extrêmement intéressant et tu es même revenu avec le bouquin de règles.
Tout à fait. En fait, on est tous passé la trentaine, quarantaine, on est tous un peu en manque de temps, que ce soit pour faire les parties de jeux vidéo, même nos jeux de société, nos piles de la honte commencent à monter.
Les jeux de rôle, les compagnies.
Voilà. Et là, c'est un jeu de figurines d'escarmouche que tu peux jouer tout seul, déjà.
Déjà.
qui est complètement coopératif et dont les parties durent allez, 40 minutes quand tu connais les règles jusqu'à 1h30, 2h quand tu fais prendre ton temps dans l'émission. Donc tu dis, bah, on peut tester, c'est parti. Et quand on l'a testé lors du Hammer Time, je me suis rendu compte que les règles étaient très simples, pas simplistes. Le jeu reste quand même assez complexe. Si tu fais n'importe quoi, ben tu crèves. Mais ça, tout se découle de source, en fait. Quand tu as une sorte de background de jeu de rôle ou de jeu de figurines, ben rien te bloque dans la compréhension des règles.
Donc tu es un peu fan de Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Quoi.
Voilà. L'univers est médiéval fantastique. C'est juste le background, je vous le fais très rapidement. Il y a deux pays qui s'amusent à se friter la gueule de temps en temps, comme dans tout médiéval fantastique. Et à un moment donné, un de ces royaumes est rongé par le mal absolu. On ne sait pas d'où il vient et ce qui se passe. Nous, on se trouve dans le bon côté où il n'y a pas encore le mal et on décide de créer une sorte d'unité spéciale qui s'appelle les Rangers pour aller enquêter. Donc, on les envoie dans l'autre pays et petit à petit...
Oui, s'est regardé, on a eu le même nom qui nous est venu à la tête.
Voilà, donc je sais que François a la prochaine musique.
Un petit générique, allez.
Et là, le jeu ressemble énormément à ce qu'on pourrait appeler un Mordheim, Necromunda, où chacun va construire son groupe avec ce ranger qui est en tête de liste. Il a des compétences, donc ça ressemble aussi à une sorte de jeu de rôle. Il a ses caractéristiques, ses compétences. Et après, il a des points à dépenser pour son équipement, ses capacités théoriques. Et après, il a quelques points à dépenser pour créer ses compagnons. Et donc, ça peut être, si tu crées une sorte de voleur qui sait escalader, etc., tu dis, j'ai pas de force de frappe. Je vais peut-être prendre un barbare avec moi, qui va me coûter autant de points la création de mon gang. Là, c'est un défaut de Necromunda. Mais après, tu vas avoir 4-5 figurines seulement à gérer sur la table. Et les règles, c'est très rapide à expliquer. Limite, en 10 minutes, je vous expliquais les règles. Donc, tu joues, tout se passe nickel.
Facile d'accès. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu as une évolution de personnage, quoi. Et ce qui était, c'est parce qu'on parlait de Necromunda, qui reste un des jeux phares d'escarmouche
avec
de l'époque.
Avec le système d'équipe, ouais, c'est ça où tu crées ton équipe et elle évoluait petit à petit. Ouais. Tes personnages mouraient, s'amélioraient, etc. Tu achetais des équipements, etc. C'était assez sympa. Oui, parce que dans ce jeu-là, c'est ce qu'on appelle des règles génériques. Tu as le livre, mais il n'y a pas de figurines avec. Donc
non, et ce que l'auteur, qui est en plus l'auteur de Force Grève, pour ceux qui connaissent les jeux de figurines, qui est déjà bien situé dans le monde du jeu de figurines, l'auteur met dès le début du bouquin que... vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit, vous avez les règles, et si pour vous, vous avez une figurine qui représente ce que vous voulez, c'est votre héros, vous la prenez. Vous avez besoin des cartes événements, les cartes événements, c'est un jeu de cartes que vous avez chez vous, et dans les scénarios, vous
prendre des figurines de Schtroumpf et dire que le méchant en face, c'est Gargamel.
Voilà.
Ouais.
Et pareil pour les décors, il dit, les joueurs qui sont avec vous, vous dites que vous êtes d'accord que ça représente ça, vous jouez avec. Et même, il va jusqu'au boutiste en disant que, s'il y a des règles qui ne vous plaisent pas, c'est un jeu qui est fait pour se raconter une histoire, parce qu'il y a des petites parties de jeu de rôle, il y a des petites parties un peu de gameplay, basique figurine. Transformez les règles, il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir.
Ah, c'est ça, il faut des figurines, des dés. Et puis, il y a un système de cartes à jouer. Voilà. C'est un jeu de cartes.
C'est les cartes événements quand tu...
Style belote, tarot,
voilà. Et à chaque début de mission ou de scénario, il va te dire, sortez par exemple le 2 de cœur qui servira pour faire tel événement, quand vous en aurez besoin. Donc, il n'y a vraiment aucun matériel à l'achat de base, sauf si vous n'en avez pas, bien sûr.
Et on pourrait très bien se faire un petit scénario du donjon Nullbuck, par exemple.
Tout à fait.
Alors, avant...
Alors, le petit truc en plus, c'est que c'est des mini-campagnes, donc tu peux jouer tout seul ou en coopératif. Tout ce que tu fais en tant que joueur en gain se répartit au niveau du groupe, donc il n'y a pas de semi-coopératif, c'est purement coopératif. Et aussi, les campagnes que tu fais se déroulent en mission et les missions en scénario. Donc ton groupe va évoluer, peut-être va gagner de l'expérience après chaque scénario, mais il ne pourra peut-être que reformer son groupe, acheter des choses ou reprendre un nouveau compagnon parce qu'il y en a qui est mort, qu'à la fin de chaque mission, pas de scénario. Donc tu as vraiment une histoire, quelque chose que tu mets en place et tu vas te raconter une campagne épique sans aucun souci.
Pour une bonne petite heure, quoi.
Ah oui. De toute façon, c'est simple, le bouquin fait pratiquement 140 pages. Au bout de 50 pages, tu as créé ton personnage, tu as créé tes compagnons, tu as créé ton équipement, tu as les règles. Et après, c'est les scénarios et la campagne.
Mais quand on parle ici d'un scénario qui dure une petite heure, on va se battre contre un monstre et puis c'est fini, ou
des fois ça peut être
on peut faire une bataille plus importante en un temps record.
Il y a autant de scénarios extérieurs qu'intérieurs, mais des fois, par exemple, le premier scénario qui est on se retrouve en plein milieu d'un village qui a l'air désert et on doit retrouver des traces d'un indice d'un autre ranger qui est venu ici et qu'on n'a plus jamais revu. Il y a des points d'intérêt sur le jeu, sur la map. Et le but, c'est de retrouver ces points d'indice pour essayer de retrouver que s'est-il passé avec ce ranger. Et premier round du jeu, infesté de zombies et de rats géants. Le truc, tu te dis, si je combats, je vais éradiquer tout le monde et après je ferai tranquille. Au deuxième tour de jeu, t'as autant de zombies et de rats géants qui reviennent. Donc tu te dis que tu pourras pas faire du combat tout le temps. Ce sera impossible. Il faut jouer le scénario. Il faut aussi de temps en temps
réfléchir.
Tu dis, voilà, il y a une maison. Est-ce que je vais peut-être pas escalader le mur de la maison pour arriver sur le toit et être tranquille parce qu'en dessous, c'est des zombies qui n'ont pas d'armes de jet. Ok, vas-y, fais-le. Tu as une compétence d'escalade, tu peux faire ton test.
On est à la limite du jeu de rôle. Oui.
Voilà. C'est pas pour ça que ça m'a plu, parce que c'est pas vraiment un jeu de figurines en tant que tel. Tu peux te raconter quelque chose, et même en jouant tout seul, tu dis, je vais tenter d'escalader la maison pour après faire un test de chute pour tomber pile sur le point d'intérêt pour avoir le dernier indice qui me manque. Ça rate. Voilà. Tu te racontes quelque chose, tu passes une bonne soirée.
Alors, je vous propose d'enchaîner avec un peu de musique avant d'attaquer le dossier sur le donjon de Nahulbeuk. C'est un peu de l'utilité publique ce qu'on va faire sur Radio Campus. On se doit d'écouter un peu tout type d'artistes, hein, comme vous pouvez le savoir. Et on s'est rendu compte que personne n'a parlé de cet album. Alors on a décidé, alors non pas...
De sacrifier nos oreilles.
De toute façon, on a fait un Larsen tout à l'heure, je pense qu'on est bon.
Je pense que le Larsen va être plus agréable à écouter que cet album.
Vous pouvez nous appeler si vous voulez, si vous voulez qu'on coupe la musique pour remettre le Larsen, c'est possible. Alors, c'est Squeezie, hein, une star de YouTube. Eh oui, le mot star est à prendre.
Avec plein de guillemets.
Voilà. Et il se dit, tiens... Il y a une promo sur les vocodeurs, sur les autotunes. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire un album ? Eh oui.
Quand tu cherches Squeezie, tu vois, sa profession, c'est célébrité sur Internet.
Voilà,
ça, écoute, je crois que ça résume tout. Hein.
Écoute, si c'est pas parlant. Alors, je vous propose d'écouter ensemble. C'est fitté en plus. Hein. Il y a Gambi qui fit. Gambi.
C'est une autre célébrité sur Internet, ouais. C'est ça ?
Le clip ici s'appelle Servi. Les verres sont servis, les filles sont sévères. Je laisse couler mes vis, qu'un whisky converse. L'album s'appelle Oxys. C'était mieux avant. Les yeux qui brillent au milieu de tout ce monde. J'en vois qui. Non, n'enlève pas ton casque, Renan.
Pourquoi ? Je m'en fous la vérité, je suis ces esprits étriqués,
m'éclipser, bon vite pour éviter la réalité, la soirée m'a donné. Ça a 5 millions de vues, hein, cette petite musique. Le
soleil va sonner. Combien d'écoutes ? Les gens ont regardé le clip en coupant le son, c'est ça ?
Alors le clip, il est en boîte de nuit. Alors il y en a plusieurs, hein. Avant de parler d'avant. Apparemment, c'était plus qu'une démo sur vocodeur, hein. Il y a carrément un pass sur lequel il a fait plusieurs chansons. Alors, je vous invite à tester, hein. Vous tapez vocodeur sur Google Play ou autre, hein, pour avoir une application mobile. Et vous avez des applications où en 5 secondes, vous pouvez créer un morceau tel comme Squeezie en 5 secondes seulement.
Mais 5 secondes, il a fait son album en 5 secondes.
C'est ça. Le plus long était la recherche des images pour la jaquette.
Dur, dur.
Et des paroles profondes.
Ah bah il faut écouter les paroles en plus.
À mon avis, c'est lui, Gambi.
Bon Dieu.
Il fallait que quelqu'un se dévoue.
Voilà, c'est fait.
Nous, on reçoit un album à la porte de Radio Campus, on le met dans la platine.
Tout le monde avait marché dessus. Ouais.
Alors, bizarrement, il n'y aura pas de version vinyle. Hein.
Ah.
Je suis même pas sûr qu'il y ait une version CD d'ailleurs. Bon, c'est un dur album que vous pouvez écouter en streaming, hein, parce que c'est un streamer, tu comprends ?
Ouais. D'ailleurs, tu disais YouTuber, mais il est pas sur Twitch entre deux. Oh, c'est assez compliqué de suivre le mercato des YouTubers, Twitchers.
Surtout qu'il y en a qui sont sur Twitch, qui se font racheter. Enfin, Ils se voient offrir un gros pactole pour rejoindre un autre service de streaming. Ça s'est vu sur Facebook, puisque Facebook a fait son Facebook Gaming. Mmh. Alors d'ailleurs, on voit qu'ils mettent la sauce sur GTA, là, apparemment.
Tu as parlé de vinyle, ça me fait penser...
Qu'on recherche toujours le vinyle de Heureusement en France ?
De Heureusement en France, et... Quitte à parler pour couvrir la daube qu'on entend, juste passer l'information que t'as Aaron Maiden qui a fait son 40e anniversaire de son premier album et qui le ressort en vinyle en édition limitée collector. Donc voilà, si ça intéresse les gens.
Mais par rapport à Squeezie, c'est sûr.
Voilà, c'était juste pour couvrir Squeezie. Et...
On reparlera de son album dans 40 ans. Pour le 40e anniversaire du premier album. Le pire, c'est que c'est même pas son premier album. Il a fait des trucs avant.
Il a fait d'autres trucs.
Ouais. Dans 40 ans, on fêtera l'anniversaire. Du 40e album d'Oxys, l'album de Squeezie.
Alors je pense que c'est toujours dans les moments comme ça qu'il faut préciser, nous sommes bien sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+, il est 18h32 et il nous restera encore assez de temps pour écouter une autre musique de Squeezie, puisque là on reçoit plein de messages sur le Facebook de l'émission Heureusement en France. Les gens veulent du Squeezie.
Moi je suis déçu parce que quand Renal parlait de Ranger, on s'est regardé, on s'est dit tu vas nous chercher le générique de Texas Ranger.
Ah ouais, je m'attendais à ça. En fait,
on met en musique de fin peut-être.
Oh bah moi je
vendu.
En fait je l'ai mis mais assez faiblement pendant que Renal parlait. Hein. Et je me suis dit il va pas apprécier parce que.
Oh, si.
Pour une fois qu'il parle avec un dossier qu'il a préparé et tout.
Ou pas.
Un beau bouquin. D'ailleurs, alors, pour revenir sur Ranger, pour expliquer à
Rangers
quel point...
Rangers of Shadow Deep.
Voilà.
Le bouquin fait un peu la taille d'une BD. Hein.
Ah, c'est ça.
Et dedans, il y a le livre de règles, il y a les scénarios, il y a le bestiaire. Donc c'est vraiment...
En fait, t'as pas forcément besoin de bestiaire, parce que c'est fait de sorte que quand tu fais les premières missions pour débutants, donc après qu'ils se décomposent en différents scénarios, il te met en place, il te dit tout ce que t'as besoin. Par exemple, t'as besoin de X figurines de temps, X figurines de ça. Et pour chaque monstre que tu n'as pas encore vu, il te met les profils et par exemple, il y a une petite règle spéciale. Donc vraiment, le bouquin, c'est juste création du gang, du ranger et de ses compagnons, les règles, quoi faire, les compétences, comment les utiliser, comment gérer le combat, les sorts, les capacités héroïques. Et après, il te met les différentes campagnes, les différentes missions.
Et si vous voulez trouver le bouquin, alors ça a été édité par les studios Tomahawk et Barbu Inc. Alors il est disponible en print on demand, mais il est aussi disponible chez des magasins en ligne, style comme Philibert ou même dans vos boutiques locales. Normalement, il faut leur demander, ils pourront le commander par exemple.
Ouais.
C'est quand même plus sympa d'avoir un beau bouquin comme ça, surtout que les illustrations sont pas mal. C'est des illustrations de Barrett Stanley, plutôt qu'un simple PDF sur une tablette, c'est un petit peu différent.
Et là, le bouquin est à une trentaine d'euros, donc ça vaut largement le coup de...
Ça se rentabilise.
Tu as normalement besoin de jeter aucune figurine, mais tu as déjà des figurines. Ben, sur Philibert, tu en trouves qui sont estampillées Ranger of Shadow Deep. Et il y a déjà un complément de règles sorties en français qui amène les loups-garous. Et tu as plein de compléments créés par l'auteur que tu peux trouver en print and demand sur des sites un peu plus anglais ou américains.
Oui, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui ont créé leur propre scénario, aventure, décor.
De toute façon, tu vas sur le Facebook de Rangers de Deep France et là, t'as plein de campagnes.
Par exemple, quand on parle de Rangers, ça fait penser à Game of Thrones, voilà. Il y a les Rangers, il y en a dedans. Donc, tu vois, tu pourrais imaginer tout à fait, c'est un univers auquel tu pourrais adapter le jeu, quoi. En changeant un petit peu les règles.
Les dragons et la fille.
Voilà. Oui, c'est tellement vieux cette série. C'est une série du passé, mais maintenant les jeunes ne connaissent même plus ça.
À un moment, j'ai cru l'histoire sans fin, je me suis dit non, c'est un petit garçon.
Ouais.
Non.
On a tellement parlé de Game of Thrones que peut-être. Oui, ça existait ça.
Bah alors, il va y avoir des reboots, hein, rassure-moi. On va pas jeter une franchise comme ça à la poubelle. Hein. Regarde ce qui s'est passé avec Walking Dead, là on est à sa troisième reboot.
Bon. C'est peut-être pour ça qu'ils vont pas en faire.
Voilà.
Allez, on va parler de Neil Buck, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Et c'est une sortie jeu vidéo qui a l'air extrêmement intéressante.
Parce qu'à l'origine, le donjon de Nullbuck, c'était des podcasts, un type tout seul dans sa chambre qui s'amusait à faire des podcasts avec une espèce de vocodeur pour faire des voix bizarres. Voilà, quand un vocodeur est bien utilisé, enfin un transmetteur bien utilisé, qui s'amusait à faire les voix de l'elfe, du nain, des personnages super marrants qui se tapaient entre eux, etc. Ça avait super bien, bien marché. Et il y avait des musiques, il avait fait des chansons, il y avait des musiques adaptées, il y a même des groupes, et puis ça avait été adapté. C'était adapté en BD, en jeu de société, en jeu de rôle également. Et là, vient juste de sortir cette semaine, c'est disponible sur Steam et Epic, donc que sur PC, je pense, un jeu de rôle, ce qu'on appelle un dungeon crawler, en français, anglais, enfin dans plein de langues en plus. J'ai pu tester un peu, puisqu'il était en bêta, il y a une démo, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ça va être une belle adaptation, un jeu très simpliste, etc. Voilà, je voulais juste écouter pour voir si on retrouvait un peu l'ambiance et les voix rigolotes. Et j'étais agréablement, très très agréablement surpris par la qualité du jeu. J'ai vu des jeux professionnels, c'est un jeu professionnel, hein, bien sûr, mais par des grosses boîtes, des boîtes expérimentées. Et c'est un jeu qui est un peu plus avancé que certains jeux que j'ai pu voir, qui vraiment te prend en main. Je me suis amusé, en plus, on peut changer les jeux. Bah, alors, j'ai mis les voix françaises pour voir si on retrouvait les voix des personnages rigolos. Et c'est exactement ça. Alors, il y a quelques voix qui sont un peu changées, mais on retrouve vraiment l'ambiance avec les blagues, etc.
Parce qu'à mon avis, il y avait une paire de voix à refaire, donc je pense qu'il y a divisé le boulot.
Ah oui, c'est un boulot énorme. Hein. Mais je me suis amusé en plein milieu de la partie à changer dans les options la voix en anglais pour voir. Et effectivement, j'ai entendu les voix des doubleurs anglais. Alors, c'est un petit peu moins. Enfin, j'ai un petit peu moins l'habitude, donc j'ai trouvé ça moins drôle, mais c'est parce que mon oreille habite à bureau voix française, quoi. Mais on peut écouter, si tu veux. Alors, je sais pas s'il y a japonais ou quoi que ce soit, mais tu peux t'amuser à écouter le Donjon d'Albuck avec des acteurs de chaque pays, faire les propres voix un peu rigolotes avec des jeux de mots et des blagues comme dans les origines du Donjon d'Albuck.
Ça a l'air vraiment bien, et ça m'a fait penser. Alors, ça fait un peu style Baldur's Gate pour au niveau de la.
Ah oui,
la
c'est
vue.
Vraiment ce style de jeu, oui.
Donc, vous êtes en tour par tour.
Ça tourne très bien. Il y a pas beaucoup d'options. En fait, tu diriges tous les personnages dès le début. Donc, le ranger, le voleur, l'elfe, la sorcière, le barbare, l'ogre, et le nain. Ne pas oublier le nain. Le nain, un nain comme les autres. Vous comprendrez la blague si vous jouez aux jeux vidéo. Un nain comme les autres.
C'est vrai que je t'avoue que au début, quand tu commences et que tu entends la voix du ranger, qui est pas la vraie voix du ranger que t'as l'habitude d'entendre, choque un peu à l'oreille, et après tu rentres dans le gameplay et ça passe outre, quoi.
Il y a beaucoup des dialogues, mais même en plein combat des fois, ou quand tu fais rien, et tu diriges tous les personnages. C'est-à-dire que en fait c'est très simple, tu dois pas bouger les personnages un par un ou les sélectionner, etc. Tu cliques quelque part et tu choisis un des personnages qui va être le meneur pour le moment, et tu diriges par exemple le voleur. Quand tu le diriges, le groupe avec le voleur, tu vas moins vite et tu détectes les pièges. Ils ont tous leurs petits trucs comme ça. L'ogre, il peut ouvrir les portes de force, enfin, il peut défoncer les portes. Et tu diriges, alors je vais pas spoiler, mais à un moment les personnages sont séparés, et tu diriges le ranger qui va devoir retrouver les autres personnages et les libérer. Et en faisant cette aventure, tu apprends à utiliser les sorts, les tirs, les contres. Et alors j'étais surpris, il y a pas mal de lectures, façon de parler. Le tutoriel, faut bien le faire parce que il y a beaucoup de possibilités. Selon que tes personnages peuvent être blessés, puis inconscients. Enfin, tout est à gérer comme dans un vrai jeu sérieux. Et c'est vraiment complexe. Et il y a du challenge. Il y a 4 niveaux de difficulté. Hein, et c'est vraiment du challenge, quoi. Parce que dès les premiers combats, faut pas faire n'importe quoi, quoi.
Alors, est-ce que sur l'évolution du personnage, est-ce qu'on peut bouger ses caractéristiques, choisir un arbre de...
C'est un petit peu la Donjon et Dragon, et quand ton personnage change de niveau, t'as des points à mettre dans des caractéristiques pour les augmenter, et tu as aussi plusieurs talents, ou voilà, par exemple, mon ranger, quand il a gagné de niveau, j'ai dû choisir entre la possibilité de pouvoir mettre des meilleures armures, puis un différent attaque. Par exemple, le ranger au corps à corps et à distance, donc j'ai dû choisir d'améliorer soit le tir à distance, soit le corps à corps. Alors tu peux le faire au fur et à mesure des niveaux, tu auras plus de points à répartir, donc tu peux choisir, etc. Et pour les autres personnages, c'est pareil. L'inventaire est géré très facilement, c'est l'ogre qui porte tout. C'est lui qui porte tout, donc faire attention de ne pas trop le charger, surtout quand il est blessé. Et chacun des personnages, quand tu vois sur un objet, c'est très simple, il t'affiche en dessous tous les personnages qui peuvent porter cet objet, donc tu peux choisir de l'équiper. Enfin, c'est vraiment, au niveau de l'interface, de la maniabilité, j'ai rarement vu un truc aussi simple et aussi puissant à gérer. Et rapide en plus, c'est vraiment, j'ai pas un PC dernier cri, mais ça tourne très facilement, quoi. C'est pas non plus de la 3D de folie. Et les décors sont très sympas, tu peux fouiller, enfin c'est vraiment, et l'histoire est rigolote. Tous les PNJ que tu rencontres et les combats, il y a des pleins, enfin tu t'amuses, t'as presque envie de refaire une partie, de recommencer à zéro pour voir si t'arrives à déclencher d'autres choses, quoi.
J'allais dire qu'en fait, que normalement ils ont adapté le jeu. Comme je disais, le côté simpliste le côté simple de la manipulation du jeu, du gameplay. Justement pour la cible des joueurs, mais en même temps, ceux qui ont connu les premiers épisodes sont pratiquement plus que trentenaires. C'est un peu dommage, j'aurais pu faire un peu plus évoluer au niveau complexité.
Alors, tu peux, comme je dis, il y a quatre niveaux de difficulté. Moi, j'ai joué en mode normal, facile, pour un joueur qui a déjà joué à un jeu de vidéo, etc. Mais le mode très facile, noob, c'est le mode histoire, enfin conte, où tu vas suivre l'histoire et tu as peu de chances de perdre un combat. Quoi. J'ai pas essayé, mais c'est en mode très simple. Tes personnages sont plus puissants, ils ont plus de points de vie, les ennemis sont plus faciles à battre, etc. Tu te concentres pratiquement sur les dialogues qui sont rigolos qu'autre chose. Et après, il y a encore deux autres niveaux de difficulté très difficiles. Ça doit être bien costaud, vu ce que j'ai. Donc, il y a du challenge si tu veux. Et je rappelle, ce qui m'a surpris, c'est le fait que je m'attendais à quelque chose de vite fait, mais non, c'est très bien pensé, ça tourne bien. J'ai pas vu de bug moi-même, mais je suis pas allé très loin.
C'est ce que tu t'attends quand t'as un jeu à licence. Tu
puis il y a plein d'humour,
ça doit être saqué.
Dans les noms des objets que tu trouves, des armes, etc., c'est super drôle. Quoi. Tu retrouves plein de références.
T'as plein de petits détails dans le décor également
Exactement.
Tu le vois pas tout de suite, et quand tu commences à zoomer, tu le fais, mais attends, c'est quoi ça? Cette statue, elle a un fil, et dessus, il y a des slips qui pendent.
Il y a plein de détails, c'est super drôle.
Alors, tu parlais de complexité un peu faible. Tu vises quoi particulièrement?
Non, en fait, c'était en rapport à ce que disait Dom, parce que quand tu arrives à un certain âge, normalement, tu as fait pas mal de jeux, que ce soit de jeux de rôle, etc. Pour ceux qui ont fait Baldur's Gate, tous les Icewind Dale, même récemment, tous les XCOM ou tous les dérivés des XCOM pour les combats au tour par tour, tu peux te dire, si c'est trop simple, entre guillemets, le côté...
Là, j'aime autant dire qu'il y a du challenge. L'un des premiers combats, donc assez simple, je me suis retrouvé avec le barbare qui avait trois ennemis, il s'est trouvé à terre inconscient. Ok, j'ai des personnages qui peuvent soigner et les autres qui étaient à distance, qui peuvent jouer, je me dis, les ennemis vont pas taper fort, non, ils commençaient à me faire des coups critiques sur mes personnages, j'ai dit, vous allez vous calmer là, j'avais du mal, il y avait un boss, etc., qu'est-ce que je fais? J'ai même comble de la honte, à un moment le nain était dans la difficulté, j'ai dû envoyer l'elfe pour l'aider.
Et là le jeu a planté.
Ce qui est super amusant d'ailleurs, c'est que l'elfe, elle a un tir multiflèche. Donc tu vises un ennemi et les flèches dévient et des fois ça vient toucher tes copains. Donc t'as le nain qui s'est fait toucher par une flèche de l'elfe et puis il s'est mis à râler. Et on dit ça va. C'est super bien foutu, j'avoue. C'est vraiment une très 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 belle surprise.
Je vous propose d'écouter le Null Band, le groupe fait par la personne qui réalise les podcasts de Null Buck avec des chansons. Alors on passe souvent, c'est l'ogre farci.
L'ogre farceur, le troll farci. Non, le troll farceur, l'elfe farci.
L'elfe farci. On va changer, cette fois-ci c'est même pas mage, issu de l'anthologie numérique.
Oui, il n'a pas de nom. J'ai échappé à un pillage. Caché au milieu des cochons, couvert de lisier, sentant la mort, dignement, je me suis relevé et je suis parti vers le nord, bien décidé à oublier. J'avais à peine marché 2 heures, j'entendis les tambours de guerre. Soudain alarmé, j'ai pris peur, j'étais vraiment dans la galère. De chaque côté 2 armées, épées et boucliers levés. Commençaient les hostilités et moi j'étais dans la mêlée. Je ne suis pas un magicien, j'ai jamais tué de dragon. Si j'en suis là, c'est le destin qui m'a vraiment pris pour un con. C'est vrai quoi, merde?
Blessé à l'oreille et tremblant, seul survivant, il fut soigné. À deux mains levant son épée, pour lui jurer fidélité. Par le poids il fut emporté, et la tête du roi tranchée.
Je m'imaginais balançant sous le gibet sur la grande place. Mais j'avais aussi un tyran, et l'on me fit roi à sa place, bien au-delà de mes frontières. On chantait partout mes exploits, si bien que mes autres confrères étaient à mort jaloux de moi. Terrible cauchemar, je convoquais tous les monarques pour leur dire que j'en avais marre. À table et autour d'un repas, j'abordais l'histoire des cochons. Les rois qui se foutaient de moi, rirent et s'étouffèrent pour de bon. Mais qu'ai-je donc fait au destin pour qu'il s'acharne ainsi sur moi?
Son rêve c'était chevalier, encore moins roi.
J'aurais voulu être paysan et puis épouser une belle blonde.
Mais c'est plus possible maintenant qu'il est devenu maître du monde.
Que je suis devenu maître du monde.
Il est devenu maître du monde.
Merci. Hein. Bon alors, vous me les cirez mes chaussures.
Voilà, du typique Pen of Chaos.
Absolument. Alors, donc à l'occasion de la sortie en jeu vidéo, donc c'est Nullbuck, le donjon Nullbuck, l'amulette du désordre, inspiré des œuvres de John Lang.
C'est à quoi là, 35 euros, je pense, okay. sur Steam.
Sur Steam et Epic Games.
Ça a l'air sympathique, écoute. Très bon. Voilà, un jeu qu'on recommande. Voilà, on le fait pas souvent. Estampillé, recommandé, heureusement en France.
T'es même pas obligé d'être fan de la série ou de l'avoir écouté. Tu peux le faire.
À la demande générale. Non, je vois que Dom se dit, mais d'où elle sort cette musique?
D'où sort ce bruit bizarre?
La chanson s'appelle Guépard.
J'aime pas quitter quand tu fais des caprices.
Et elle feat Némir. Si vous venez de débarquer comme ça sur Radio Campus, sachez que nous sommes dévoués en France pour écouter l'album de Squeezie et vous le faire découvrir.
Il fait tellement d'argent avec ses streams, il doit pouvoir. Je suis sûr qu'il achète tous ses albums lui-même derrière. En douce, pour faire croire que ça se vend.
Un peu. Après, il les laisse traîner à droite à gauche pour faire croire que les gens les oublient.
Bah, quand t'as des millions de followers, tu sors une dob, ils vont tous cliquer.
Ouais, donc il y en ait un sur 10 qui donne qui paye même une piste, ouais. 1€, parce que tu peux les acheter à la piste. Obligé de l'acheter l'album complet. Donc,
Mais pourquoi se lancer dans un album? C'est quoi? Ils pensent faire mieux que Booba, c'est sympa?
Ça fait beaucoup de noms à encaisser là, attends.
Après, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas vu quoi que ce soit. S'il a,
je jamais regardé.
Bah non, mais il a peut-être eu une proposition de faire quelque chose avec, ou c'est lui qui a envie de faire un truc. Quand tu sais que t'as plus aucun problème financier, tu peux dire je fais ce qui me fait plaisir et puis on s'en fout de ce qu'il y a derrière.
Bah, on voit qu'il s'en fout.
On entend surtout qu'il s'en fout.
Alors, on va enchaîner avec l'agenda, hein, qu'on entame tout le jour en début d'émission, évidemment. Et qu'on finit 5 minutes avant la fin.
C'est pour revenir sur The Belgian Beer Race, le jeu belge sur la bière, la grande course à la bière, pas de l'an 2000, mais de l'an 2020, qui était en Kickstarter, donc jusqu'au 17 septembre, et qui, sur 15 000 euros demandés, a réussi à obtenir près de 82 000 euros. Avec plus de 1100 contributeurs. Donc le jeu va se faire, bon, on n'avait aucun doute là-dessus. Il y a plein de paliers débloqués, du coup, il y a plein de petits trucs en plus. Donc le Kickstarter vient juste de se terminer. Donc ce qu'on appelle le Pledge Manager va bientôt se lancer. Ils sont en préparation de tout ça. Donc même les gens qui n'ont pas eu le temps de backer, enfin de contribuer, auront encore l'occasion, avec le Pledge Manager, de participer, d'obtenir leur boîte de jeu, quoi. Donc, très bonne nouvelle. Encore un jeu sur la bière. On a encore plein chez moi à tester des jeux sur la bière.
On peut y jouer sans modération, contrairement à la boisson, bien sûr. On a toujours dans notre petite liste des émissions spéciales bière qui arrivent.
C'est prévu.
Voilà, on vous en dira plus prochainement et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord.
On est même sur TikTok.
C'est vrai? Ouh là là, mais il va falloir qu'on parle de TikTok, puisque je vois, je ne suis pas sûr qu'on aura les codings nous, juste après nous, mais TikTok, ça commence à être difficile.
À TikTok.
Ça commence à être difficile aux États-Unis, puisque Trump voilà, a accusé un peu d'espionnage les Chinois, donc forcément TikTok étant un peu le Facebook chinois, la chose qui fait cartonner.
Oui, alors il s'est dit, mais pourquoi ça serait les Chinois qui nous écoutent? On va le racheter, TikTok, ouais. Et comme ça sera nous, les Américains, qui allons écouter et espionner le monde entier.
Voilà. C'est ça. Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Voilà, c'est soit ça ou les Russes, mais non. On fera peut-être un dossier plus complet là-dessus, parce qu'apparemment, ça risque d'être autorisé, oui, mais parce qu'il va racheter une partie.
Il y a des concurrents qui commencent la sens. Il y a YouTube qui veut lancer une espèce de YouTube Lite ou de Little YouTube, etc., qui sera une espèce de concurrent d'alternative à TikTok.
On surfe sur ce qui fonctionne, hein, c'est bien connu. Un autre point d'agenda.
Absolument. On parlait de Kickstarter, de financement participatif. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait reçu des créateurs dans l'émission. Et parmi ces créateurs, il y en a qui avaient participé à, grâce à l'AMEL, enfin un soutien de l'AMEL, la métropole européenne de Lille, qui tous les ans, maintenant c'est la troisième année, sélectionne 10 créateurs de la métropole, qui créent dans la métropole si possible, et les met en avant, et les aide pendant une période à peu près un mois, donc c'est en ce moment. C'est ce qu'on appelle les mail makers, et donc 10 makers métropolitains, et les aide à se lancer, à se faire connaître sur KissKissBankBank. Donc c'est une espèce de partenariat entre la métropole européenne de Lille et KissKissBankBank. Et donc cette année encore, il y a 10 créateurs qui ont été choisis. Ça s'est lancé, il y a encore les KissKissBankers, je ne sais pas comment on appelle ça, donc les sont encore sur le site pour une vingtaine de jours. Et ils ont tous un objectif, je ne sais pas si c'est tous 5 000 euros, mais à obtenir. Le but, ce n'est pas tellement de les financer, c'est des projets qui existent déjà, qui vont sans doute se faire, mais c'est surtout de les faire connaître et de les mettre en avant. Et cette année, un petit peu comme l'année dernière, il y a beaucoup de projets, la plupart des projets tournent autour du recyclage, principalement. On parle aussi de surcyclage, qui permet de réutiliser des objets. Donc, par exemple, il y a un projet qui propose de rénover des chaises, des tables, etc. Il y a pas mal de choses. Il y a des gens qui redonnent vie à une deuxième... Alors, si vous retrouvez la vaisselle de votre grand-mère, vous pouvez leur donner pour qu'il lui redonne une nouvelle vie. Il y a des gens qui transforment des toiles de parapluie cassées en coupe-vent. Il y a plein de choses comme ça. Il y a les lunettes de Zach, par exemple, qui reconditionnent. Il y a plein de gens qui ont des tas de lunettes, de vieilles paires de lunettes dans leur tiroir, etc., qui retrouvent qu'ils savent pas quoi faire, ben là, il va y avoir des endroits, dans certains endroits, où vous pourrez déposer vos lunettes, ça sera récupéré, nettoyé, recyclé, etc., et redistribué et revendu. Donc il y a plein de choses comme ça. Et il y a un projet qui nous touche un petit peu plus, nous les geeks, et qui s'appelle, je vais le retrouver, le Playful Kit. Et qu'est-ce que le Playful Kit? Donc c'est Mathieu Gillon qui a créé ça. Il fait des kits pour fabriquer ce robot, pour faire ton robot toi-même. Donc il t'envoie une espèce de sachet recyclable, bien sûr, tout dans le coffret recyclable, et un kit avec plein des petites roues, etc., des petits moteurs, des fils électriques, compagnie. Et avec ce kit, et surtout la boîte de l'emballage, qui va servir de corps au robot, tu vas pouvoir fabriquer ton propre robot. Il y aura 6 kits disponibles. On peut tout retrouver sur KissKissBankBank, mais si vous allez sur le site de lillemétropole.fr, vous trouverez cette suite l'annonce pour les Makers 2020, et vous aurez les 10 projets, et un lien pour aller soutenir sur KissKissBankBank tel ou tel projet. Là, il reste 20 jours à peu près. Et ce kit de robot, donc il y a plein de projets disponibles. Le kit de base coûte 12 euros, donc tu vois, c'est vraiment pas cher. Tu as juste un pochon avec de quoi faire ton robot de base, mais tu as 6 modèles de robots différents. Tu peux même commander le pack avec les 6 robots si tu fais. Je suis sûr qu'on peut les mélanger en plus.
Ça a l'air super bien. En plus, projet participatif. Alors, il reste 20 jours pour participer. Le projet a besoin de vous, parce que là, ils sont à 1000 euros sur 5000. Donc, sachez que si vous soutenez le projet, vous allez recevoir, selon votre participation, un petit kit. Donc, vous pourrez, vous-même ou avec votre enfant, vous initiez à la construction d'un petit robot.
En plus, ça tombe bien, parce qu'on est mi-septembre, donc on approche des fêtes de fin d'année. Donc, je trouve ça comme cadeau de Noël, c'est absolument génial.
Et surtout que là, le pack duo, c'est justement des robots programmés. Tu l'as à 60 euros, tu peux avoir 2 robots de ton choix. Oui, mais tu reçois, et après tu les...
Tu as des robots très simples, etc. Ah. Tu as des robots programmables, puis parmi les robots, tu as des robots télécommandables, etc. Ah.
Plus, tu as la liste, le kit Éveil, Evo, Moving, Avoid, Remote. Enfin, tu peux avoir le robot de ton choix.
Et si tu as si tu prends le plus gros pledge, alors je ne sais plus à combien il est, à 500, 1000 euros, pour 1000 euros, tu as le pack entreprise, tu as 15 kits, et donc ça peut faire une activité d'entreprise, et le créateur vient directement sur ton entreprise animer un atelier pour...
Donc c'est super. Il reste allez, une dernière petite news agenda, si vous voulez. Il reste le temps pour une.
C'est fou, toi.
Non ?
Ah, si, il y a un truc que j'ai appéré qui a l'air assez sympa. Bon, c'est, si on aime la musique classique, c'est pas Squeezie. J'ai vu ça, ça s'appelle Candlelight. Apparemment, c'est des concerts qui tournent dans le monde entier. Et il y a quelques dates prévues à Lille. Alors, Candlelight, c'est simple. C'est de la musique classique. Alors, des morceaux classiques. Hein. Vous avez les 4 saisons de Vivaldi. Faut pas aller chercher des trucs très compliqués, ouais. Très populaires. Et à Lille, c'est dans l'église de la Treille en plus. Et donc, il y a l'orchestre qui joue. Et en fait, il y a des bougies partout. Alors bon, dans une église, tu vas me dire, il y a déjà des bougies. Mais là, par raison de sécurité, ce n'est pas des vraies bougies, hein, c'est des petites bougies électriques, etc. Ah, mais quand on va voir les photos, donc Candlelight, on peut trouver ça sur feverup.com, par exemple, pour réserver ses places. Ça commence à 15 euros. Donc il y a quelques dates à Lille prévues. Et c'est assez spectaculaire. Donc si on est qu'on aime la musique classique ou pas, c'est vraiment une façon différente de découvrir ça, je trouve. Pourquoi pas le Naul Band avec des bougies, ça pourrait le faire aussi.
Ça a l'air sympa. Voilà.
Squeezie, même avec autant de bougies que tu veux, Squeezie, non, par contre, ça passera pas.
Sauf s'il est mis quelque part.
Oh. Voilà, c'était la fin de cette émission. Heureusement en France, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 18h, 19h, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. If you see him coming round the outskirts of town, don't you ever take him for a ride. Cause in the eyes of a ranger, the unsuspected stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. Look behind you, cause that's where the ranger's gonna be.
Radio Campus Lille.